Chapitre 3. Que demande le tiers-état ? À devenir quelque chose. Il ne faut point juger de ces demandes par les observations isolées de quelques auteurs plus ou moins instruits des droits de l'homme. L'ordre du tiers-état est encore fort reculé à cet égard. Je ne dis pas seulement sur les lumières de ceux qui ont étudié l'ordre social, mais encore sur cette masse d'idées communes qui forment l'opinion publique. On ne peut apprécier les véritables pétitions de cet ordre que par les réclamations authentiques que les grandes municipalités du royaume ont adressées au gouvernement. Qui voit-on ? Que le peuple veut être quelque chose, et en vérité, le moins qu'il est possible. Il veut avoir de vrais représentants aux États généraux, c'est-à-dire des députés tirés de son ordre, qui soient habiles à être les interprètes de son vœu et les défenseurs de ses intérêts. Mais à quoi lui servirait d'assister aux États généraux si l'intérêt contraire au sien y prédominait ? Il ne ferait que consacrer par sa présence l'oppression dont il serait l'éternelle victime. Ainsi, il est bien certain qu'il ne peut venir voter aux États généraux s'il ne doit pas y avoir une influence au moins égale à celle des privilégiés et il demande un nombre de représentants égal à celui des autres ordres ensemble. Enfin, cette égalité de représentation deviendrait parfaitement illusoire si chaque chambre avait sa voix séparée. Le tiers demande donc que les votes y soient pris par tête et non par ordre. Voilà à quoi se réduisent ces réclamations qui ont paru jeter l'alarme chez les privilégiés, parce qu'ils ont cru que par cela seul, la réforme des abus devenait indispensable. La véritable intention du tiers-état est d'avoir aux états généraux une influence égale à celle des privilégiés. Je le répète, peut-il demander moins ? Et n'est-il pas clair que si son influence y est au-dessous de l'égalité, on ne peut pas espérer qu'il sorte de sa nullité politique et qu'il devienne quelque chose ? Mais ce qu'il y a de véritablement malheureux, c'est que les trois articles qui forment la réclamation du tiers sont insuffisants pour lui donner cette égalité d'influence dont il ne peut point, en effet, se passer. Vainement obtiendra-t-il un nombre égal de représentants tirés de son ordre. L'influence des privilégiés viendra se placer et dominer dans le sanctuaire même du tiers. Où sont les postes, les emplois, les bénéfices à donner ? De quel côté est le besoin de la protection ? De quel côté est le pouvoir de protéger ? Et les non-privilégiés qui paraîtraient les plus propres par leur talent à soutenir les intérêts de leur ordre, ne sont-ils pas élevés dans un respect superstitieux ou forcé envers la noblesse ? On sait combien les hommes en général sont faciles à se plier à toutes les habitudes qui peuvent leur devenir utiles. Ils pensent constamment à améliorer leur sort. Et lorsque l'industrie personnelle ne peut avancer par les voies honnêtes, elle se jette dans de fausses routes. Je ne sais quel peuple de l'Antiquité, pour accoutumer ses enfants aux exercices violents ou adroits, n'accordait des aliments qu'après leur succès ou leurs efforts en ce genre. De même, parmi nous, la classe la plus habile du tiers-état a été forcée, pour obtenir son nécessaire, de se dévouer à la volonté des hommes puissants. Cette partie de la nation en est venue à former comme une grande antichambre où, sans cesse occupée de ce que disent ou font ses maîtres, elle est toujours prête à tout sacrifier aux fruits qu'elle se promet du bonheur de plaire à voir de pareilles mœurs. Comment ne pas craindre que les qualités les plus propres à la défense de l'intérêt national ne soient prostituées à celles des préjugés ? Les défenseurs les plus hardis de l'aristocratie seront dans l'ordre du tiers-état et parmi les hommes qui, nés avec beaucoup d'esprit et peu d'âme, sont aussi avides du pouvoir et des caresses des grands qu'incapables de sentir le prix de la liberté. Outre l'empire de l'aristocratie, qui, en France, dispose de tout, et de cette superstition féodale qui avilite encore la plupart des esprits, il y a l'influence de la propriété, celle qui est naturelle. Je ne la proscris point, mais on conviendra qu'elle est encore tout à l'avantage des privilégiés et qu'on peut redouter avec raison qu'elle ne leur prête son puissant appui contre le tiers-état. Les municipalités ont cru trop facilement qu'il suffisait d'écarter la personne des privilégiés de la représentation du peuple pour être à l'abri de l'influence des privilèges. Dans les campagnes et partout, quel est le seigneur un peu populaire qui naît à ses ordres, s'il le veut bien, une foule indéfinie d'hommes du peuple ? Calculez les suites et les contre-coups de cette première influence et rassurez-vous, si vous le pouvez, sur les résultats d'une assemblée que vous voyez fort loin des premières comices, mais qui n'en est pas moins une combinaison de ces premiers éléments. Plus on considère ce sujet, plus on aperçoit l'insuffisance des trois demandes du tiers. Mais enfin, telles qu'elles sont, on les a attaquées avec force. Examinons les prétextes de cette hostilité. Première demande. Que les représentants du tiers-État ne soient choisis que parmi les citoyens qui appartiennent véritablement au tiers. Nous avons déjà expliqué que, pour appartenir véritablement au tiers, il ne fallait être taché d'aucune espèce de privilège. Les gens de robe, parvenus à la noblesse par une porte qu'ils ont arrêtée, on ne sait pas pourquoi, de refermer après eux, veulent à toute force être des États généraux. Ils se sont dit « la noblesse ne veut pas de nous, nous ne voulons pas du tiers ». S'il était possible que nous formassions un ordre particulier, cela serait admirable. Mais nous ne le pouvons pas. Comment faire? Il ne nous reste qu'à maintenir l'ancien abus par lequel le tiers députait des nobles. Et par là, nous satisferons nos désirs sans manquer à nos prétentions. Tous les nouveaux nobles, quelle que soit leur origine, se sont hâtés de repérer dans le même esprit. Il faut que le tiers puisse députer des gentilshommes. La vieille noblesse, qui se dit la bonne, n'a pas le même intérêt à conserver cet abus. Mais elle sait calculer. Elle a dit « nous mettrons nos enfants dans la chambre des communes » et, en tout, c'est une excellente idée que de nous charger de représenter le tiers. Une fois la volonté bien décidée, les raisons, comme l'on sait, ne manquent jamais. Il faut, a-t-on dit, conserver l'ancien usage, excellent usage, qui pour représenter le tiers, l'a positivement exclu jusqu'à ce moment de la représentation. L'ordre du tiers a ses droits politiques comme ses droits civils. Il doit exercer par lui-même les uns comme les autres. Quelle idée que celle de distinguer les ordres pour l'utilité des deux premiers et le malheur du troisième, et de les confondre dès que cela est encore utile aux deux premiers et nuisible à la nation. Quel usage à maintenir que celui en vertu duquel les ecclésiastiques et les nobles pourraient s'emparer de la chambre du tiers? De bonne foi, se croiraient-ils représentés si le tiers pouvait envahir la députation de leurs ordres? Il est permis, pour montrer le vice d'un principe, d'en pousser les conséquences jusqu'où elles peuvent aller. Je me sers de ce moyen et je dis, si les gens des trois États se permettent de donner indifféremment leur procuration à qui il leur plaît, il est possible qu'il n'y ait que des membres d'un seul ordre à l'Assemblée. Admettrait-on, par exemple, que le clergé seul pût représenter toute la nation? Je vais plus loin. Après avoir chargé un ordre de la confiance des trois États, réunissons sur un seul individu la procuration de tous les citoyens. Soutiendra-t-on qu'un seul individu pourrait remplacer les États généraux? Quand un principe mène à des conséquences absurdes, c'est qu'il est mauvais. On ajoute que c'est nuire à la liberté des commettants que de les borner dans leur choix. J'ai deux réponses à faire à cette prétendue difficulté. La première, qu'elle est de mauvaise foi, et je le prouve. On connaît la domination des seigneurs sur les paysans et autres habitants des campagnes. On connaît les manœuvres accoutumées ou possibles de leurs nombreux agents, y compris les officiers de leur justice. Donc, tout seigneur qui voudra influencer la première élection est, en général, assuré de se faire député au bailliage, où il ne s'agira plus que de choisir parmi les seigneurs eux-mêmes ou parmi ceux qui ont mérité leur plus intime confiance. Est-ce pour la liberté du peuple que vous vous ménagez le pouvoir de lui ravir sa confiance? Il est affreux d'entendre profaner le nom sacré de la liberté pour cacher les desseins qui y sont les plus contraires. Sans doute, il faut laisser aux commettants toute leur liberté, et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'exclure de leur députation tous les privilégiés trop accoutumés à dominer impérieusement le peuple. Ma seconde réponse est indirecte. Il ne peut y avoir, dans aucun genre, une liberté ou un droit sans limite. Dans tous les pays, la loi a fixé des caractères certains, sans lesquels on ne peut être ni électeur ni éligible. Ainsi, par exemple, la loi doit déterminer un âge au-dessous duquel on sera inhabile à représenter ses concitoyens. Ainsi, les femmes sont partout, bien ou mal, éloignées de ces sortes de procurations. Il est constant qu'un vagabond, un mendiant, ne peuvent être chargés de la confiance politique des peuples. Un domestique et tout ce qui est dans la dépendance d'un maître, un étranger non naturalisé, seraient-ils admis à figurer parmi les représentants de la nation? La liberté politique a donc ses limites comme la liberté civile. Il s'agit seulement de savoir si la condition de la non-éligibilité que le tiers réclame n'est pas aussi essentielle que toutes celles que je viens d'indiquer. Or, la comparaison est tout en sa faveur, car un mendiant, un étranger, peuvent n'avoir pas un intérêt opposé à l'intérêt du tiers. Au lieu que le noble et l'ecclésiastique sont, par état, amis des privilèges dont ils profitent. Ainsi, la condition exigée par le tiers est pour lui la plus importante de toutes celles que la loi, d'accord avec l'équité et la nature des choses, doit mettre au choix des représentants. Pour faire ressortir davantage ce raisonnement, je fais une hypothèse. Je suppose que la France est en guerre avec l'Angleterre et que tout ce qui est relatif aux hostilités se conduit, chez nous, par un directoire composé de représentants nationaux. Dans ce cas, je le demande, permettrait-on aux provinces, sous prétexte de ne pas choquer leur liberté, de choisir, pour leurs députés au directoire, des membres du ministère anglais? Certes, les privilégiés ne se montrent pas moins ennemis de l'ordre commun que les Anglais ne le sont des Français en temps de guerre. Par une suite de ces principes, on ne doit point souffrir que ceux du tiers, qui appartiennent trop exclusivement aux membres des deux premiers ordres, puissent être chargés de la confiance des communes. On sent qu'ils en sont capables par leur opposition, et cependant, si l'exclusion n'est pas formelle, l'influence des seigneurs, devenue inutile pour eux-mêmes, ne manquerait pas de s'exercer en faveur des gens dont ils disposent. Je demande surtout qu'on fasse attention aux nombreux agents de la féodalité. C'est aux restes odieux de ce régime barbare que nous devons la division encore subsistante, pour le malheur de la France, de trois ordres ennemis l'un de l'autre. Tout serait perdu si les mandataires de la féodalité venaient à usurper la députation de l'ordre commun. Qui ne sait que les serviteurs se montrent plus âpres et plus hardis pour l'intérêt de leurs maîtres que les maîtres eux-mêmes? Je sais que cette proscription s'étend sur beaucoup de monde, puisqu'elle regarde, en particulier, tous les officiers des justices seigneuriales, etc. Mais c'est ici la force des choses qui commandent. Le Dauphiné a donné sur cela un grand exemple. Il est nécessaire d'écarter, comme lui, de l'éligibilité du tiers, les gens du fisc et leurs cautions, ceux de l'administration, etc. Quant aux fermiers des biens appartenant aux deux premiers ordres, je pense bien aussi que, dans leurs conditions actuelles, ils sont trop dépendants pour voter librement en faveur de leur ordre. Mais ne puis-je espérer que le législateur consentira un jour à s'éclairer sur les intérêts de l'agriculture, sur ceux du civisme et de la prospérité publique, qu'il cessera enfin de confondre l'âpreté fiscale avec l'œuvre du gouvernement? Alors, on permettra, on favorisera même des beaux avis sur la tête du fermier, et nous ne les regarderons plus, ces fermiers si précieux, que comme des tenanciers libres, très propres assurément à soutenir les intérêts de la nation. On a cru renforcer la difficulté que nous venons de détruire en avançant que le tiers-état n'avait pas des membres assez éclairés, assez courageux, etc. pour le représenter et qu'il fallait recourir aux lumières de la noblesse. Cette étrange assertion ne mérite pas de réponse. Considérer les classes disponibles du tiers-état, et j'appelle avec tout le monde, classes disponibles, celles où une sorte d'aisance permet aux hommes de recevoir une éducation libérale, de cultiver leur raison, enfin de s'intéresser aux affaires publiques. Ces classes-là n'ont pas d'autre intérêt que celui du reste du peuple. Voyez si elles ne contiennent pas assez de citoyens instruits, honnêtes, dignes, à tous égards, d'être de bons représentants de la nation. Mais enfin, dit-on, si un bailliage s'obstine à ne vouloir donner sa procuration du tiers qu'à un noble ou un ecclésiastique, s'il n'a de confiance qu'en lui, j'ai déjà dit qu'il ne pouvait pas y avoir de liberté illimitée et que, parmi toutes les conditions à imposer à l'éligibilité, celle que le tiers réclamait était la plus nécessaire de toutes. Mais répondons plus immédiatement. Je suppose qu'un bailliage veuille absolument se nuire. Doit-il avoir pour cela le droit de nuire aux autres? Si je suis seul intéressé aux démarches de mon procureur fondé, on pourra se contenter de me dire « Tant pis pour vous, pourquoi l'avez-vous mal choisi ?» Mais ici, les députés d'un district ne sont pas seulement les représentants du bailliage qui les a nommés, ils sont encore appelés à représenter la généralité des citoyens, à voter pour tout le royaume. Il faut donc une règle commune et des conditions, dussent-elles déplaire à certains commettants, qui puissent rassurer la totalité de la nation contre le caprice de quelques électeurs. Deuxième demande du tiers. Que ces députés soient en nombre égal à ceux des deux ordres privilégiés. Je ne puis m'empêcher de le répéter. La timide insuffisance de cette réclamation se ressent encore des vieux temps. Les villes du royaume n'ont pas assez consulté les progrès des Lumières et même de l'opinion publique. Elles n'auraient pas rencontré plus de difficultés en demandant deux voix contre une, et peut-être se fût-on hâté, alors, de leur offrir cette égalité contre laquelle on combat aujourd'hui avec tant d'éclat. Au reste, quand on veut décider une question comme celle-ci, il ne faut pas se contenter, comme on le fait trop souvent, de donner son désir ou sa volonté ou l'usage pour des raisons. Il faut remonter aux principes. Les droits politiques, comme les droits civils, doivent tenir à la qualité de citoyen. Cette propriété légale est la même pour tous, sans égard au plus ou moins de propriété réelle dont chaque individu peut composer sa fortune ou sa jouissance. Tout citoyen qui réunit les conditions déterminées pour être électeur a droit de se faire représenter et sa représentation ne peut pas être une fraction de la représentation d'un autre. Ce droit est un. Tous l'exercent également, comme tous sont protégés également par la loi qu'ils ont concouru à faire. Comment peut-on soutenir, d'un côté, que la loi est l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire de la pluralité, et prétendre, en même temps, que 10 volontés individuelles peuvent balancer 1000 volontés particulières? N'est-ce pas s'exposer à laisser faire la loi par la minorité, ce qui est évidemment contre la nature des choses? Si ces principes, tout certains qu'ils sont, sortent un peu trop des idées communes, je rappellerai le lecteur à une comparaison qui est sous ses yeux. N'est-il pas vrai qu'il paraît juste à tout le monde, excepté à Monseigneur l'évêque de Nesves, que l'immense bailliage du Poitou ait plus de représentants qu'aux États généraux que ce petit bailliage de Gex? Pourquoi cela? Parce que, dit-on, la population et la contribution du Poitou sont bien supérieures à celles de Gex. On admet donc des principes d'après lesquels on peut déterminer la proportion des représentants. Voulez-vous que la contribution en décide? Mais quoique nous n'ayons pas une connaissance certaine de l'imposition respective des ordres, il saute aux yeux que le tiers en supporte plus de la moitié. À l'égard de la population, on sait qu'à l'immense supériorité, le troisième ordre a eu sur les deux premiers. J'ignore, comme tout le monde, quel en est le véritable rapport. Mais, comme tout le monde, je me permettrai de faire mon calcul. D'abord pour le clergé. Nous compterons 40 000 paroisses, en y comprenant les annexes, ce qui donne tout d'un coup le nombre des curés, y compris les desservants des annexes, 40 000. On peut bien compter un vicaire par paroisse, l'une dans l'autre. 10 000. Le nombre des cathédrales est comme celui des diocèses, à 20 chanoines l'un dans l'autre, y compris les 140 évêques ou archevêques, 2 800. On peut supposer, à vue de pays, que les chanoines de collégiales montent au double, 5 600. Après cela, il ne faut pas croire qu'il reste autant de têtes ecclésiastiques qu'il y a de bénéfices simples, abbayes, prieurés et chapelles. On sait, de reste, que la pluralité des bénéfices n'est pas inconnue en France. Les évêques et les chanoines sont en même temps abbés, prieurs et chapelains. Pour ne pas faire un double emploi, j'estime à 3 000 bénéficiaires ceux qui ne sont pas déjà compris dans les nombres ci-dessus. 3 000. Enfin, je suppose environ 2 000 ecclésiastiques, bien entendu dans les ordres sacrés, n'ayant aucune espèce de bénéfice. 2 000. Il reste les moines et les religieux, qui sont diminués depuis 30 ans dans une progression accélérée. Je ne crois pas qu'il n'y ait aujourd'hui plus de 17 000. 17 000. Nombre total des têtes ecclésiastiques, 80 400. Noblesse. Je ne connais qu'un moyen d'approcher du nombre des individus de cet ordre. C'est de prendre la province où ce nombre est le mieux connu et de la comparer au reste de la France. La Bretagne est cette province, et je remarque d'avance qu'elle est plus féconde en noblesse que les autres, soit parce qu'on n'y déroge point, soit à cause des privilèges qui y retiennent les familles, etc. On compte en Bretagne 1 800 familles nobles, j'en suppose 2 000, parce qu'il en est qui n'entrent pas encore aux États. En estimant chaque famille à 5 personnes, il y a en Bretagne 10 000 nobles de tout âge et de tout sexe. Sa population totale est de 2 300 000 individus. Cette somme est à la population de la France entière comme 1 à 2. Il s'agit donc de multiplier 10 000 par 11, et l'on aura 110 000 têtes nobles au plus pour la totalité du royaume. 110 000. Donc, en tout, il n'y a pas 200 000 privilégiés des deux premiers ordres. Comparez ce nombre à celui de 25 à 26 millions d'âmes et jugez la question. Si l'on veut actuellement atteindre à la même solution en consultant d'autres principes tout aussi incontestables, considérons que les privilégiés sont au grand corps des citoyens ce que les exceptions sont à la loi. Toute société doit être réglée par des lois communes et soumise à un ordre commun. Si vous y faites des exceptions, au moins doivent-elles être rares. Et dans aucun cas, elles ne peuvent avoir sur la chose publique le même poids, la même influence que la règle commune. Il est réellement insensé de mettre en regard du grand intérêt de la masse nationale l'intérêt des exempts, comme on fait pour le balancer en aucune manière. Au reste, nous nous expliquerons davantage sur ce sujet dans le 6e chapitre. Lorsque, dans quelques années, on viendra à se rappeler toutes les difficultés que l'on fait essuyer aujourd'hui à la trop modeste demande du tiers, on s'étonnera et du peu de valeur des prétextes qu'on y oppose, et, encore plus, de l'intrépide iniquité qui a osé en chercher. Ceux mêmes qui invoquent, contre le tiers, l'autorité des faits, pourraient-ils lire, s'ils en étaient de bonne foi, la règle de leur conduite. Il a suffi de l'existence d'un petit nombre de bonnes villes pour former, sous Philippe le Bel, une chambre des communes aux États généraux. Depuis ce temps, la servitude féodale a disparu, et les campagnes ont offert une population nombreuse de nouveaux citoyens. Les villes se sont multipliées, se sont agrandies. Le commerce et les arts y ont créé, pour ainsi dire, une multitude de nouvelles classes dans lesquelles il est un grand nombre de familles aisées, remplies d'hommes bien élevés et attachés à la chose publique. Pourquoi ce double accroissement, si supérieur à ce qu'étaient autrefois les bonnes villes dans la balance de la nation? N'a-t-il pas engagé la même autorité à créer deux nouvelles chambres en faveur du tiers? L'équité et la bonne politique se réunissaient pour le demander. On n'ose pas se montrer aussi déraisonnable à l'égard d'une autre sorte d'accroissement survenu à la France. Je veux parler des nouvelles provinces qui ont été unies depuis les derniers États généraux. Personne n'ose dire que ces nouvelles provinces ne doivent pas avoir des représentants à elles, par-delà ceux qui étaient aux États de 1614. Pourquoi donc, lorsqu'il s'agit d'une augmentation qu'il est facile de comparer à celle du territoire, puisque les fabriques et les arts offrent, comme le territoire, de nouvelles richesses, une nouvelle contribution et une nouvelle population, pourquoi, dis-je, refuse-t-on de lui donner des représentants par-delà ceux qui étaient aux États de 1614? Mais je presse de raison des gens qui ne savent écouter que leur intérêt. On ne peut les toucher que par un autre genre de considération. En voici une que je leur offre. Convient-il à la noblesse d'aujourd'hui de garder le langage et l'attitude qu'elle avait dans les siècles gothiques? Et convient-il aux tiers-États de garder, à la fin du XVIIIe siècle, les mœurs tristes et lâches de l'ancienne servitude? Si le tiers-État sait se connaître et se respecter, certes, les autres le respecteront aussi. Qu'on songe que l'ancien rapport entre les deux ordres est changé des deux côtés à la fois. Le tiers, qui avait été réduit à rien, a réacquis par son industrie une partage de ce que l'injure du plus fort lui avait ravi. Au lieu de redemander ses droits, il a consenti à les payer. On ne les lui a pas restitués, on les lui a vendus. Mais enfin, d'une manière ou d'une autre, il peut s'en mettre en possession. Il ne doit pas ignorer qu'il est aujourd'hui la réalité nationale dont il n'était autrefois que l'ombre, que, pendant ce long changement, la noblesse a cessé d'être cette monstrueuse réalité féodale qui pouvait réprimer impunément, qu'elle n'en est plus que l'ombre, et que vainement cette ombre cherche-t-elle encore à épouvanter une nation entière. Troisième et dernière demande du tiers-État. Que les États généraux votent non par ordre, mais par tête. On peut envisager cette question de trois manières. Dans l'esprit du tiers, suivant l'intérêt des privilégiés, et enfin, d'après les bons principes. Il serait inutile, sous le premier point de vue, de rien ajouter à ce que nous avons déjà dit. Il est clair que pour le tiers, cette demande est une suite nécessaire des deux autres. Les privilégiés craignent l'égalité d'influence dans le troisième ordre et ils la déclarent inconstitutionnelle. Cette conduite est d'autant plus frappante qu'ils ont été jusqu'à présent deux contre un, sans rien trouver d'inconstitutionnel à cette injuste supériorité. Ils sentent très intimement le besoin de conserver le veto sur tout ce qui pourrait être contraire à leurs intérêts. Je ne répéterai point les raisonnements par lesquels 20 écrivains ont battu cette prétention et l'argument des anciennes formes. Je n'ai qu'une observation à faire. Il y a sûrement des abus en France. Ces abus tournent autour du profit de quelqu'un. Ce n'est guère au tiers qu'ils sont avantageux, mais c'est bien à lui surtout qu'ils sont nuisibles. Or, je demande si, dans cet état des choses, il est possible de détruire aucun abus tant qu'on laissera le veto à ceux qui en profitent. Toute justice serait sans force. Il faudrait tout attendre de la pure générosité des privilégiés. Serait-ce là l'idée qu'on se forme de l'ordre social? Si nous voulons actuellement considérer le même sujet d'après les principes qui sont faits pour l'éclairer, c'est-à-dire d'après ceux qui forment la science sociale, indépendamment de tout intérêt particulier, nous verrons prendre à cette question une face nouvelle. On ne peut accueillir soit la demande du tiers, soit la défense des privilégiés, sans renverser les notions les plus certaines. Je n'accuse assurément pas les bonnes villes du royaume d'avoir eu cette attention. Elles ont voulu se rapprocher de leurs droits en réclamant au moins l'équilibre entre les deux influences. Elles ont professé d'ailleurs d'excellentes vérités, car il est constant que le veto d'un ordre sur les autres serait un droit propre à tout paralyser dans un pays où les intérêts sont si opposés. Il est certain qu'en ne votant point par tête, on s'expose à méconnaître la vraie pluralité, ce qui serait le plus grand des inconvénients parce que la loi serait radicalement nulle. Ces vérités sont incontestables. Mais les trois ordres, tels qu'ils sont constitués, pourront-ils se réunir pour voter par tête? Telle est la véritable question. Non. À consulter les vrais principes, ils ne peuvent voter en commun, ni par tête, ni par ordre. Quelque proportion que vous adoptiez entre eux, elle ne peut remplir le but qu'on se propose, qui serait de lier la totalité des représentants par une volonté commune. Cette assertion a, sans doute, besoin de développement et de preuves. Qu'on me permette de les renvoyer au 6e chapitre. Je ne veux pas déplaire à ces personnes modérées qui craignent toujours que la vérité ne se montre mal à propos. Il faut auparavant leur arracher l'aveu que la situation des choses est telle qu'aujourd'hui, par la seule faute des privilégiés, il est temps de prendre son parti et de dire ce qui est vrai et juste dans toute sa force.